Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h07, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci beaucoup de votre fidélité. Si vous avez raté la première heure, nous avons parlé de Lionel Messi, de Raphaël Nadal. N'hésitez pas à nous télécharger sur les différentes plateformes de podcast. Cette émission cartonne aussi en podcast. Et merci à vous, évidemment. Christophe Cessieux, Stéphane Brun, Denis Charvet, Sarah Pitkowski autour de la table dans le studio RMC. Dans quelques instants, nous allons passer la seconde autour de Zinedine Zidane, qui ne devrait pas être le prochain sélectionneur des Bleus. Doit-il arrêter d'attendre l'équipe de France? 10h30, un homme en colère, Pierre Amiche va revenir sur l'affaire Lovren et son salut nazi qui est de retour à Lyon. Lovren, pas le salut nazi, enfin pas encore. Et puis 11h, la seconde des GG avec les performances individuelles absolument dingues en ce moment en NBA. Il y aura une team, c'est dantesque, une team, c'est grotesque. Notre direct, c'est du ski alpin avec la première manche du slalom géant dames de Kranjskagora en Slovénie avec Arnaud Souk. Arnaud, où en est-on?
Et après le passage des 22 premières skieuses, autant dire qu'il n'y aura pas de bouleversement de la hiérarchie. C'est Valérie Grenier, la Canadienne, qui a priori va remporter cette première manche devant la Suissesse Lara Gut-Bérami, 4 centièmes d'avance, 16 centièmes sur Federica Brignon. Michaela Schifrin en quête d'une nouvelle victoire pour égaler le record de Lindsey Vonn, le record de 82 victoires pour l'instant est en cinquième position à 31 centièmes. Donc l'Américaine peut tout à fait aujourd'hui s'imposer. Côté français, Coralie Frassombé est 8e à 73 centièmes. Ça s'est un tout petit peu moins bien passé que prévu et qu'attendu pour l'autre française, Tessa Worley, qui se classe pour l'instant en 11e position à 1 seconde. C'est pas rédhibitoire, mais il va falloir cravacher en deuxième manche tout à l'heure à partir de midi et demi pour espérer, pourquoi pas, monter sur le podium.
Arnaud, dépêche-toi quand même, t'as un jet privé qui t'attend, oui, puisqu'on te retrouve ailleurs dans 20 minutes.
Et oui, à Adèle Boden tout à l'heure pour le slalom géant masculin. Avec Alexis Pinturo, Dossard numéro 4. On en notera également les participations évidemment du champion du monde Mathieu Fèvre et de Victor Muffat. Je ne suis pas sûr que, vu le peu de neige qu'il y a à Adèle Boden, ça soit très bien de dire que je vais prendre mon petit jet privé, Jean-Christophe.
Oui, alors on prend le carbone, c'est vrai que le ski en ce moment a mauvaise réputation. On en parlera d'ailleurs demain dans l'émission. 10h30 à Adèle Boden avec Arnaud Souk. Merci Arnaud, on te retrouve dans quelques instants. Cesare Pavese a dit un jour: attendre est encore une occupation, c'est de ne rien attendre qui est terrible.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Est-ce que Zidane sera, alors on ne sait pas quand, mais sera le prochain sélectionneur des Bleus?
Pas répondre à qui sera le prochain président de la Fédération, ce sera à lui de décider.
Moi, personnellement, en tant que passionné de football et de l'équipe de France, j'ai envie de voir autre chose, de voir un autre football. J'ai envie de voir Zizou, sélectionneur de l'équipe de France.
Bientôt, je suis pas loin, je suis là, je suis toujours là, on attend.
On a un très bon rapport avec Zidane, à titre personnel. Si Didier arrêtait, et si j'étais encore en place, la première personne que je verrais, c'est Zidane, bien sûr.
Et
vous n'avez jamais abordé le sujet avec Zidane en frontal?
Jamais.
Jamais.
Ah ben, c'est pas correct.
Finalement, en fait, c'est ma vie, quoi.
J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai
pour Zinedine Zidane, évidemment. Alors, ces jours d'Assemblée Générale de la Fédération Française de Football, youpi, bon, c'est pas Netflix ou OCS, mais bon, ça a le mérite d'exister. En revanche, selon Noël Le Graët, le cas du sélectionneur n'est pas prévu lors de cette Assemblée, alors rangez les pop-corns. Ce que l'on sait en tout cas, à date, Didier Deschamps devrait bientôt être reconduit, soit pour 2 ans, comme le souhaiterait le président, soit pour 4 ans, comme le désirerait le sélectionneur. La chance de Zinedine Zidane attendra donc, lui qui est resté libre de tout engagement, au cas où la place se libérerait. La musique qui fout les jetons, et cette question. Zidane, doit-il arrêter d'attendre les Bleus? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Oui.
Sarah Pitkowski?
Non.
Denis Charvet?
Non.
Stéphane Brun?
Oui. Si j'ai bien compris la question.
Oui.
Doit-il arrêter? Redis-moi la question, que parce que j'ai pas l'impression qu'il a compris la question.
C'est pareil, les questions interro-négatives.
Oui, tu me l'as déjà dit, Pivot. Mais bon, ça va. On va s'en sortir quand même, les copains.
On va lui faire des compliments.
Là, tout de suite, doit-il arrêter d'attendre ou définitivement?
Oui, c'est ça aussi.
Ça, vous me répondrez, mais moi, je vous demande. Okay. Déjà, c'est pas sur le côté interro-négatif. Non, c'est doit-il arrêter d'attendre les Bleus? C'est-à-dire qu'il se met entre parenthèses, en pause, alors qu'il a des propositions, et lui, il dit non. Donc, il y a un moment donné.
Ça veut dire qu'il doit attendre encore.
Il doit attendre encore? Est-ce qu'il doit arrêter d'attendre?
Oui, il doit arrêter d'attendre.
Non, il ne doit pas arrêter d'attendre.
Voilà, niveau CE2, okay. Bravo les copains. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Nicolas Pelletier. Salut Nicolas.
Salut les GG,
salut Nico.
Alors tu es devant un hôtel parisien où se déroule cette assemblée générale de la Fédération française de football. Comment ça se passe ?
Oui, c'est le grand rendez-vous des têtes pensantes de la Fédération française de football. Et cette assemblée générale de la FFF est percutée par deux actualités très fortes autour de l'instance. L'avenir de Didier Deschamps. Tout le monde pensait que ce dossier serait réglé avant cette assemblée. Ce n'est pas le cas, mais Didier Deschamps est bien présent pour ce grand rendez-vous. En temps normal, le sélectionneur doit présenter sa feuille de route pour la saison qui arrive. On verra si Didier Deschamps le fait dans quelques minutes. Lui qui n'est plus sous contrat depuis le 31 décembre avec la Fédération. Les discussions sur son avenir se poursuivent et la réponse devrait intervenir après ce week-end. On rappelle, Deschamps veut prolonger jusqu'en 2026, alors que Le Graët souhaite jusqu'en 2024. Mais dans ce rassemblement des têtes pensantes de la Fédération, on parle beaucoup de ce sujet et donc c'est le dossier prioritaire du président Le Graët. Mais il y a un autre sujet qui percute cette actualité et celui-là crée un peu plus de crispation quand on l'évoque avec les dirigeants du football français. L'audit commandé par le ministère des Sports pour faire toute la lumière sur la gestion de la 3F, comme on vous l'a dévoilé cette semaine sur notre site. L'audit mené au sein de la FFF connaîtra un premier moment fort fin janvier avec le rendu d'un premier rapport. Autrement, ce moment avec l'ensemble des dirigeants du football français permet surtout de parler finances. La plus puissante fédération de France a présenté ce matin un budget de plus de 274 millions d'euros.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour toutes ces précisions. Évidemment, s'il se passe quelque chose, ça reste une assemblée générale, mais s'il se passe quelque chose...
Oui, ça reste une assemblée générale.
Si tu arrives à avoir Didier Deschamps, évidemment, tu es en direct avec nous toute la matinée dans les grandes gueules. À savoir... Parce que je vous le dis, les GG, l'Assemblée Générale a débuté très tôt ce matin. Vous, vous plaignez parfois parce qu'on est là à 9h.
À quelle heure ?
Autour de 8h30.
Bah oui, mais voilà. il faut qu'à midi, soit l'apéro aussi. Oui. Tu fais marrer, toi.
Et oui,
mais c'est pas tous les week-ends, l'Assemblée Générale. Hein.
Et sachant que 8h30 à 10h30, c'est petit-déj.
L'Assemblée Générale, la raison, Sarah, c'est une fois par an.
Hein. C'était pour vous taquiner, évidemment, parce qu'on a tous pas du tout envie de suivre une Assemblée Générale de la Fédération Française de Football. Alors, Zidane, doit-il arrêter d'attendre les Bleus ? C'est notre question. Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Denis Charvet.
Écoute, moi, pour moi, il a tout à perdre de... Comment dire, je pense sincèrement que Le Graët va pas prolonger Deschamps à 4 ans. Donc, je pense que Deschamps, il acceptera une prolongation à 2 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut attendre 2 ans pour Zidane.
Un an et demi
même. Donc, après, on sait jamais, mais je pense qu'il a tout à intérêt, il a tout à perdre dans un club aujourd'hui, de signer dans un club. Quel qu'il soit, que ce soit la Juve, un grand club, et de prendre des coups et de pas réussir, alors que l'équipe de France lui tend la main, lui tend les bras. Je veux dire que ce soit Le Graët ou un autre président, ben lui, c'est pour lui l'équipe de France.
Personne lui tend les bras pour l'instant. Il dit t'attends.
Si Le Graët,
s'il veut rester.
Oui, mais Le Graët, il te dit c'est lui, mais pour l'instant il y a des chances.
C'est lui, mais après quoi.
Ben oui.
Numéro 2.
Mais il a tout à perdre.
Je veux dire, le pari sur 2 ans, donc un an et demi parce que l'Euro va arriver. L'Euro 2024 et il doit attendre cette année.
Il doit attendre que Deschamps s'en aille et qu'il prenne la place de Deschamps. Après, il a aucun risque en fait. Le risque, c'est d'aller dans un club après.
Mais il est déverrouillé de plus avoir l'équipe de France.
Mais non, mais il peut avoir une clause dans un club.
Mais c'est pas un risque d'aller dans un club. Aujourd'hui, les contrats, tu t'en défais. Si jamais il signe dans un club pendant un an et demi et que dans un an et demi, la place
est libre. Et qu'il fasse du mauvais boulot dans un club.
Mais ça n'affectera pas sa probabilité d'être sélectionneur. Après, il y a deux lectures, en fait, sur Zidane. C'est l'affaire Le Graët ou pas l'affaire Le Graët. Le Graët président de la fédération ou Le Graët qui saute. Parce que si Le Graët saute, il faut que Zidane soit patient. Si Le Graët reste en place après le dit.
Mais qui va remplacer
mais
Le Graët?
Mais c'est quoi le rapport avec le fait que...
Parce que si Le Graët est remplacé et que le mec qui remplace Le Graët est...
D'accord, mais c'est pas question d'être un pro Deschamps. Là, t'as quand même un sélectionneur qui a une Coupe du Monde, une finale. T'es obligé d'analyser froidement les résultats.
Peut-être que le mec qui va prendre la place...
Mais non, mais il signera avant Deschamps. Mais il a quelques jours, il va signer Deschamps.
Est-ce que Le Graët va pas attendre de savoir ce que on l'a dit avant de.
Mais non, Didier Deschamps. Mais non, c'est pas possible.
Il y a les qualifications.
Il y a les qualifications
pour
l'Euro,
de Garrigue. D'accord, très bien. Bref.
Il va pas attendre mi-février avant de nommer un sélectionneur.
Donc, pour moi, Zidane doit retrouver du travail. Parce que répondre oui à ce qu'il faut qu'il attende les Bleus, ça voudrait dire qu'on accepte éventuellement une prolongation de Deschamps de 4 ans et ça veut dire qu'on accepte que Zidane fasse rien pendant 4 ans.
Non, je t'ai parlé de 2 ans, moi. Je n'ai pas parlé 4 ans. 4 ans, c'est une autre histoire. Pour moi, c'est une autre histoire.
Après, ce mec-là, Zidane, il a déjà les jambes qui frétillent. Il a pris une année sabbatique en attendant voir ce qui se passe pour les Bleus. Il a envie de coacher, il a envie de ressentir cette pression des bancs de touche. Il a été sevré de ça, d'émotion et de stress pendant. On va pas lui demander d'attendre 3 ans.
Il mais il a toujours été patient, Zidane, dans toute sa carrière.
Moi, je sais qu'il y a les projets là qui pourraient peut-être le titiller. La Juve, qui est son premier club à l'étranger où il a passé 5 saisons, qui a besoin de se relancer.
La Juve, t'as vu,
ça
le
sera un
problème.
Défi. Et puis attention, parce que si nous, la France, on prolonge Didier Deschamps, il y a une grande sélection qui est chaude sur Zidane, qui est le Brésil. Et moi, je vous dis, Zidane sur le bord du Brésil, je suis bien plus chaud que Zidane sur le bord de la France.
Hein, mais moi aussi, mais ce serait génial.
Moi, je suis chaud.
Alors, tout à l'heure, on a parlé de Thierry Henry sur le bord du Brésil.
C'est le sélectionneur de l'équipe la plus mythique au monde et qui affronte Deschamps en finale de la Coupe du Monde dans 4 ans. Moi, je signe des deux mains de pied pour tout ce que tu veux.
Mais Netflix,
non, mais c'est bien. On ouvre une parenthèse sur Zidane au Brésil. Ok, on ouvre cette parenthèse, pas longtemps. Hein. Vous allez me dire que Zidane, icône française, sur le banc du Brésil, alors qu'il aurait pu prendre la France, vous êtes content?
Mais moi, ça me gênerait.
Avec tes chicots.
Toi, ça ne te dérangerait pas, Sarah, Zidane sur le banc du Brésil? C'était une rumeur.
Il était sur une liste, c'est pas une rumeur du tout. Il était sur une liste.
Bah, non, mais qu'il soit sur une liste, c'est une chose. Qu'on ait approché Zidane pour lui demander son avis, c'en est une autre. Moi, je pense que Zidane n'ira pas au Brésil et il acceptera certainement pas ce type de.
Ce type de rôle.
Et oui, ça me gêne. Enfin, je trouverais ça étrange.
Non, il n'est pas allé au PSG justement.
Ça me pose vraiment question. Hein.
De quoi, Zidane avec le Brésil?
Ouais, ça me pose question.
Moi, ça me pose question aussi.
Ça te choquerait?
Zidane, malgré tout, est peut-être le sportif non brésilien à avoir une cote de popularité énorme au Brésil.
Le plus brésilien
aujourd'hui, les Brésiliens ont quand même fait le tour de tous les grands techniciens sur le banc. Ça n'a pas fonctionné. Donc, ils vont peut-être se tourner vers un sélectionneur non brésilien. Moi, je vous dis, ça match.
Que ça convienne au Brésil, c'est une chose. Moi, l'image du meilleur joueur de l'équipe de France au Brésil, ça me pose question.
Si Le Graët et Deschamps décident de signer pour 4 ans.
C'est un meilleur débat que.
Là, franchement, Zizou, tu crois quoi? Il va attendre 4 ans que l'autre s'en aille. Écoutez, les gars, on me propose le banc de la plus grande équipe du monde, la plus mythique. Eh ben, j'y vais.
Il peut faire une pige avec le Brésil, même si moi j'ai du mal à l'imaginer. Il peut faire une pige avec le Brésil et que lorsque Didier Deschamps finit son contrat, qu'il reprenne l'équipe de France.
Mais vous, je rebondis. Avec le Brésil, il se ferme pas du tout la porte des Bleus.
Bien sûr que si. Bien sûr que si.
Denis Charvet.
Mais moi je le crois, oui. Mais moi, connaissant le Zidane de loin, comme vous, il n'acceptera jamais d'aller jouer d'entraîner le Brésil.
J'imagine pas.
Jamais. C'est un mec qui est sur les valeurs,
Il a des convictions profondes.
Et je pense que jamais il ira entraîner le Brésil. Enfin, moi c'est mon sentiment. Je serais très c'est un honneur et une grande fierté que d'être contacté par le Brésil.
C'est quoi les valeurs et les convictions qu'est-ce qui va à l'encontre des valeurs et les convictions?
Non, mais attendez, il y a deux choses. Il y a la fierté, l'honneur d'être contacté, mais c'est pas pour autant que tu dois accepter. Il y a deux choses.
À la rigueur, les valeurs et les convictions pour que Zidane aille sur le banc du Paris Saint-Germain, je veux bien l'entendre, mais que Zidane aille sur le banc du Brésil.
C'est le plus brésilien de tous les joueurs français.
Alors, je vais te dire, ça va certainement te choquer, c'est sûr que ça va te choquer, mais pour moi, c'est pire.
Quoi?
Ah oui, c'est pire.
Qu'est-ce qu'il y a, le Brésil? Il y a quoi comme antagonisme?
Parce que Zidane a toujours dit que son rêve,
et que
ça allait passer par là, c'était d'entraîner l'équipe de France. Et je trouve que.
Ça est parti de lui.
Je trouve que sélectionneur, représenter son pays, c'est au-dessus de tout. Et représenter un autre pays quand tu t'appelles Zidane,
par défaut,
je vois pas l'histoire.
Mais il y a pas d'histoire.
C'est
plutôt le sens de l'histoire, tu vois. Tu vois pas dans sa trajectoire, tu comprends pas le sens.
Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Si jamais le Brésil, ça va pas se faire un jour d'être sur le banc de la France.
Je suis entièrement d'accord.
Si jamais, et là encore, c'est que vraiment la pure science-fiction et notre petit délire, notre petit fantasme. Si jamais Zidane est sur le banc du Brésil, ça ne l'empêchera pas un jour ou l'autre d'être sur le banc de l'équipe de France.
Imagine. Il gagne la Coupe du Monde avec le Brésil dans 4 ans, et il revient, il accueille en héros, et il regagne la Coupe du Monde.
Et Federer regagne à Grand Chelem à 54 ans, c'est incroyable.
Non, mais je rejoins Denis sur le sens de l'histoire, c'est-à-dire que commencer à être entraîneur d'une équipe nationale par le Brésil pour finir un jour, parce qu'on en a tous envie et ça semble être quelque chose qui s'impose comme une évidence, qu'ils prennent l'équipe de France après, là ça fait quand même un peu étrange.
Ouais, mais
ça fait, je prends le Brésil en attendant, c'est un peu
le problème, c'est que pour Zidane, vous voulez pas qu'il coache en club parce qu'il veut qu'il attende l'équipe de France.
Mais non,
ensuite, l'équipe de France, si Deschamps prolonge de 4 ans, vous voulez qu'il attende.
Non, 4 ans, je veux pas qu'il attende. Il va à la Juve. À la Juve.
Tu veux qu'il reste au bord de sa piscine à fumer des cigarettes?
Non, 2 ans, c'est pas le genre de. Non, mais d'ailleurs, c'est pas 2 ans, c'est 1 an et demi. Donc je pense qu'un an et demi peut attendre l'équipe de France. Après, si c'est 4 ans, c'est un autre problème.
Et puis, sachant que s'il attend l'équipe de France, parce que ça, c'est important, on referme, si vous voulez bien, la parenthèse brésilienne. S'il attend 1 an et demi, et si Didier Deschamps
gagne l'euro,
il en reprend pour 2 ans.
Ah ouais, Deschamps n'a pas du tout envie d'arrêter.
Donc il ne doit pas attendre.
Non, il ne doit pas attendre. Il doit pas attendre. Enfin, il doit peut-être attendre là qu'il décide si c'est 2 ou 4 ans. Si c'est 2 ans, et que derrière le Grec lui dit, écoute, voilà, on te signe déjà ton contrat pendant 2 ans. Ok, mais il faut des certitudes, quoi. Là, il est quand même dans les plus belles années de sa carrière, en pleine force de l'âge. Il a entraîné le Real, il l'a amené au sommet, mais il faut qu'il confirme. Il faut qu'il aille se faire les dents sur d'autres équipes.
Mais Zidane,
il ne peut pas rester à son âge.
Mais non, justement, Christophe. Mais non, c'est pas une question d'argent.
C'est une question d'argent.
Si tu veux, là où vous minimisez le fait. Tu minimises le fait que entraîner un club, ça ronge, ça donne une énergie incroyable. Et que lui, pourquoi il va entraîner une sélection nationale et notamment l'équipe de France, c'est que c'est pas la même. Sélectionneur, c'est pas le même boulot.
Le Brésil, ça lui irait très bien.
Mais ça, c'est encore notre débat. C'est un autre débat. Mais je veux dire, pas là. Zidane, il va pas prendre un club aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est notre métier. Et qu'il a vécu depuis 10 ans. Il l'a fait au Real.
Il a pris du plaisir. Il a pris du plaisir au Real. Pourquoi il prendrait pas du plaisir?
S'il a arrêté, c'est que justement, il est au un carrefour de sa
carrière. Peut-être s'il a arrêté aussi, parce qu'avec le Real, il avait fait le tour. Au bout d'un moment, t'as gagné 3 Champions League. Qu'est-ce que tu
veux dire? Mais après, tu entraînes l'équipe de France 24 ans, mais c'est rien de mieux. Pourquoi Deschamps il reste? Parce que la place est bonne.
Mais parce que
t'as pas la pression. Tu touches un salaire. Alors, il pourrait toucher beaucoup plus ailleurs, Deschamps. Ça, c'est vrai, il pourrait toucher 4 fois plus.
Avec le Brésil, je pense qu'il pourrait travailler beaucoup plus.
Avec le Brésil, il pourrait
toucher. Mais il travaillerait, mais 1000 fois plus, il travaillerait. Et là, il touche 3 millions, 3,5 millions, je sais pas, ça a été sorti dans les journaux. Je pense que c'est déjà beaucoup. Donc, je veux dire, qu'est-ce qu'il va s'emmerder dans un club au quotidien?
La sélection brésilienne pourrait lui donner plus, je pense, à Zidane en termes d'oseille. Si on parle que d'argent. Mais après, attention à Zidane. Ce fantasme Zidane, qui est une icône en France, il a gagné avec le Real Madrid, mais on a tous envie de le voir exercer ailleurs. Parce qu'il était dans un cocon au Real Madrid, je veux pas lui enlever 3 Champions League, c'est fantastique, mais Deschamps, avant d'arriver avec la France, il avait quand même fait des choses en club, ensuite il a gagné en sélection. Zidane, attention, il a beaucoup à perdre sur son prochain job.
D'accord, mais tu peux pas raisonner par le...
C'est pour ça, évidemment, quand tu t'as dit...
C'est pour ça qu'on traîne le Brésil, s'il est mauvais, ça arrange tout le monde.
Zidane, je suis désolé.
S'il prend un club, il pourra pas avoir des résultats à la hauteur de ceux qu'il a eu avec le Real. Tu vas pas gagner 3 Ligue des Champions.
Il aurait dû accepter le Paris Saint-Germain, franchement.
Non, mais moi ce qui
là,
m'énerve, Stephen.
Il a des convictions, Zidane. C'est-à-dire que s'il accepte pas le PSG, c'est qu'il a du mal à accepter la gestion.
Qui voulait l'équipe de France.
Après, sur le raison
qu'il l'aurait là.
Mais il est pas en accord avec la gestion du PSG, des propriétaires du PSG. Il l'a dit ouvertement. Non, il l'a dit clairement.
Mais, le mot de la fin, Denis.
Non, mais ce qui me gêne un peu avec Zidane, c'est qu'on dit il a gagné 3 coupes d'Europe, mais on minimise ces trophées. Et je trouve que gagner 3 trophées en tant que sélection du Real, je veux dire, si, parce que parfois on dit est-ce qu'il est vraiment entraîneur,
envie de voir.
Oui, parce que l'envie de voir s'il peut réussir ailleurs. Mais putain, mais quand t'as réussi au Real, excuse-moi, qu'est-ce que tu as demandé au mec de réussir ailleurs? Je suis désolé, parce que tu penses que les 3 titres qu'il a gagnés, c'est pas dur? Pour moi, c'est là où on relativise parfois ces exploits.
Les convictions, Zidane, quand il a pris 3 millions pour faire la promotion de la Coupe du Monde au Qatar, les convictions, il les a mis un peu en deux sides.
Ok, on va terminer totalement.
C'est pas gratuit, 3 millions.
On va terminer ce débat par... parce que là, souvent on le débute, mais on va aussi le terminer par la musique qui fout les jetons à cette question. C'est très important ce qui vient de se passer dans le studio RMC, là, depuis 10 heures. Très important.
Je sais ce qu'il va dire.
Ben oui, c'est la question qu'il va nous poser.
Oui, je sais ce qu'il va dire.
Le débat, finalement, est-ce que c'était pas Zidane au Brésil?
Mais voilà.
Attendez, oui ou non, Christophe, c'est sûr.
Est-ce que c'était ça le débat?
Ouais.
Mais oui, évidemment.
Est-ce que le bon débat, c'était ça?
C'était ça le bon débat.
Sarah, bah oui, c'était ça le débat.
Stéphane Marin.
Totalement.
Denis oui, Charbel. C'était ça, et je pense qu'on a bien fait de.
On est passé à côté de quoi?
On est passé à côté de quelque chose de grandiose. Vous savez quoi, Jean? J'en tirerai. Arrêtez la musique, parce que là, ça va être solennel.
Jean. Je me retire définitivement de la vie d'animateur.
J'en tirerai les conclusions. De. Non pas ce naufrage, parce que ça a été rattrapé. À un moment donné, j'ai senti. J'ai quand même encore quelques convictions. J'ai senti qu'on allait vers ça et que je me suis trompé à la base. Donc, j'ai rattrapé le truc, mais il était quand même un peu trop tard. Et donc, je m'en excuse. Et sachez que je vais, je pense, me retirer des grandes gueules du sport. Bonsoir.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h32 de retour dans les grandes gueules du sport. On est ensemble jusqu'à midi, vous le savez, comme tous les samedis et dimanches, toujours avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Stephen Brun et notre ami Denis Charvet. Sachez que dans une dizaine de minutes, le zapping des GG, avec notamment cette information sortie par le Parisien ce matin, Sébastien Chabal, ambassadeur de France 2023 de la Coupe du Monde, soupçonné de trafic de billets pour ce mondial en France. Voilà, on vous donnera toutes les informations du Parisien et vous me donnerez votre avis, enfin évidemment si ça vous intéresse. Mais tout de suite, un homme en colère.
RMC,
l'homme en colère.
Mais pourquoi est-il aussi méchant? Pierre Amiche,
bonjour.
Bonjour à tous.
Alors pourquoi en colère aujourd'hui?
Bah cette semaine je suis un homme en colère. Non, heureux. Non, en colère. Non. C'est chaud là. Non, parce que cette semaine, Dejan Lovren s'est engagé en faveur de l'OL, un bon joueur qui, c'est vrai, dans l'euphorie de la victoire face aux Pays-Bas avec la Croatie, a un petit peu fait n'importe quoi. En fiesta, le taux d'alcoolémie de Cessieux un jeudi après-midi, le slip sur la tête, il s'est laissé griser. Et on a pu voir le Croate chanter avec des copains un tube de Marko Perković. C'est un peu le Johnny Hallyday croate. C'est un air hyper populaire, chanté un peu partout en Croatie. Bon, le problème, c'est que le Johnny local, c'est un peu, comment dire ça poliment, un fumier, quoi. Certaines de ses chansons célèbrent les crimes des Oustachis, les collabos croates époque Allemagne nazie. Et encore, pour ceux qui parlent pas trop la langue, la chanson version Lovren est accompagnée d'une chorégraphie qui laisse planer le doute. Hein. Bras tendus, ça ressemble un petit peu, mais pas beaucoup, hein, salut nazi. Heureusement, son nouveau coach, Laurent Blanc, a volé à son secours en conférence de presse.
J'ai vu la chose qui pouvait amener en tant que joueur ici au club. Et je pense que c'est une bonne recrue en tant que footballeur. Si on regarde l'homme, ça c'est votre jugement, c'est votre... Moi je regarde un petit peu le sportif.
Non mais c'est vrai, on est qui pour juger? Pour une fois qu'on a un sportif qui s'engage en politique, ouais. on lui en veut parce qu'il serait un petit peu néo-nazi. Bon, ça peut arriver. Qui a jamais chanté Maréchal nous voilà pour fêter un titre? Ça arrive. Puis une fois dans sa vie, on peut déraper. Une fois on a le droit. Bon, le problème, c'est que Dejan Lovren, il est en drift depuis quelques années. Il trouve scandaleux que la Russie soit écartée des compétitions internationales. Il a annoncé boycotter Disney parce que c'était un petit peu trop tata pour lui. Comme Infantino, il aime pas trop les arcs-en-ciel. Heureusement, son nouveau coach, Laurent Blanc, a volé à son secours en conférence de presse.
Il y a tellement de choses qui choquent en ce moment. Il y a beaucoup de sujets qui choquent et on peut le comprendre. Mais là, on est dans une conférence de presse, de sport. On n'est pas là pour parler... de choses bien plus graves que vous évoquez.
Ah, c'est clair, on est là pour causer ballon, hein, pourquoi parler de trucs qui choquent? Non, plus sérieusement, moi je suis pas spécialiste du top 50 croate. J'ai vu la vidéo en slow motion, image par image. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un geste tendancieux. Il danse mal, il est bourré, mais je vois pas un nostalgique de la Wehrmacht. Et c'est hyper dur d'avoir un avis définitif. Parce que je pense, au fond de moi, hein, je sais que c'est pas bien de le penser, mais je pense, moi, Pierre Amiche, pas RMC, pas mes patrons, un petit peu JC, mais moi, Pierre Amiche, ce que je pense, c'est qu'un joueur de foot, il doit être bon au foot. Et je trouve ça cocasse de réclamer un permis de moralité à un footeux quand on n'en demande pas autant à un ministre. Parce qu'un sportif, eh ben, il représente personne d'autre que lui-même. Personnellement, quand Lewis Hamilton il enlève son casque, ben, je m'en fous de savoir ce qu'il pense. Quand Martin Fourcade enlève ses skis, ben, je m'en fous de savoir ce qu'il pense. Je respecte les immenses champions, leur avis vaut pas moins que le mien, mais ils me feront pas acheter du fromage ou du parfum. Et je dis pas qu'ils doivent être des salauds, mais ils ont le droit d'être ce qu'ils veulent parce qu'ils sont mandatés par personne qui représente rien de plus qu'eux-mêmes. Et moi, je m'en fous de savoir si Lovren est un con, parce que j'ai aucun problème de conscience. Je l'ai pas fait venir à Lyon, je lui signe pas de chèque tous les mois, j'achète pas son maillot, je cautionne pas de chant nazi parce que je regarde l'OL. Ça change absolument rien à ma vie. Et si je l'aime pas, ben, ça change rien à la sienne non plus, hein. Il continue à prendre des fafios et à penser ce qu'il pense. En revanche, si je me place du point de vue du club, ben là c'est pas la même marmelade, là c'est pas bien. On est même carrément du côté du mal, parce que tu signes un contrat à un joueur qui va défendre tes couleurs, incarner l'image de ton club, alors que tu sais que le mec il est pas forcément zozo. Et disons que ça tombe mal dans un monde du football qui prône sans cesse la tolérance, la lutte contre le racisme et contre les méchants. et qu'on a fait même un argument marketing, hein, le sport universel est très inclusif. Et puis Lyon, ils ne s'en sont pas à leur coup d'essai. Il y a un an, ils recrutaient Boateng, super défenseur qui avait tapé sur sa femme. Cherchez plus les mecs, hein, s'il y a un problème au poste d'arrière gauche, il y a Benjamin Mendy qui est dispo. Alors je sais, on dit souvent qu'à cheval donné, on regarde pas les dents. Mais à joueur payé parfois grassement, je crois qu'on y gagnerait à être un tout petit peu plus regardant.
Merci beaucoup Pierre Amiche pour cet homme en colère. À vous de trancher maintenant les GG. Est-ce que vous aussi vous êtes en colère? Colère, pas colère. Christophe Cessieux.
Je sais pas, je suis partagé comme Pierre. J'ai du mal à me décider.
Sarah Pitkowski.
Pareil, parce qu'en fait...
Attends, ouais, je te demande pas...
Je suis très très partagé. Je sais pas s'il faut être en colère ou pas.
Ok, Stéphane Brun.
Ouais, un petit peu en colère.
Un peu en colère, non. Denis Charvet. Pas en colère. Dans quelques instants, on va débattre évidemment priorité au direct. On va retrouver Arnaud Souk, notre homme notamment du ski alpin pour le slalom géant, la première manche. Tadej Boden avec les hommes, avec Alexis Pinturo qui va s'élancer dans quelques instants, Arnaud Souk.
Et on va voir si Alexis Pinturo dans une trentaine de secondes, je ne sais pas si vous voulez rester avec moi, sera capable eh bien, de confirmer les progrès entrevus depuis le début de la saison dans cette discipline qui est normalement sa discipline forte, celle du slalom géant et dans laquelle il n'a pas forcément été très très brillant depuis un an désormais, même un petit peu plus. Alexis Pinturo qui va s'élancer dans quelques instants sur la Schwinnis Barkley, cette piste donc d'Adèle Boden, une piste qui fait débat, vous le savez, de la neige artificielle. Enfin, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, la neige artificielle a été amenée dans la station suisse d'Adèle Boden, dans l'Oberland. Il fait une dizaine de degrés l'après-midi, c'est vraiment pas un temps à skier dans la montagne suisse. Et pourtant, on a déposé de la neige artificielle, on l'a arrosée, on a mis un petit peu de sel histoire de garantir une piste de Coupe du Monde praticable. C'est ce qu'on appelle la Mecque du géant ici à Adèle Boden, la Schwinnis Barkley. Et c'est parti donc pour Alexis Pinturo. Pour l'instant, c'est Henrik Kristoffersen qui mène la danse, une seconde devant Manuel Feller. Lucas Braten, le Norvégien, n'a pas terminé sa manche. Et Alexis Pinturo, pour l'instant, au deuxième intermédiaire, fait un bon temps puisqu'il n'est qu'à 22 centièmes de Henrik Kristoffersen. C'est une manche qui est relativement longue, hein, sur cette piste extrêmement pentue, une manche environ 1 minute et 20 secondes pour Alexis Pinturo qui pour l'instant eh bien déroule son ski. On va voir s'il est capable de tenir la distance avec Henrik Kristoffersen, notamment dans la plongée dans quelques instants, dans l'air d'arrivée. Vous allez voir ce virage, ce pied gauche et puis derrière le pied droit pour Alexis Pinturo. Attention avec ce virage en dévers, c'est bien pris de la part d'Alexis Pinturo. 64 centièmes de retard désormais pour le Français sur Henrik Kristoffersen. Au troisième intermédiaire, attention, il s'est fait un petit peu embarquer Alexis Pinturo, il devrait perdre un petit peu de temps encore sur Henrik Kristoffersen, mais ça sera quand même une manche relativement solide. 87 centièmes de retard pour Alexis Pinturo qui se classe en deuxième position provisoire de cette première manche du slalom géant. Dans quelques instants, Zdeněk Kranjec, le Slovène, et juste après lui, le boss Marco Odermatt, vainqueur de 3 des 4 géants cette saison.
Merci beaucoup Arnaud Souk, hein, toujours un plaisir de suivre le ski alpin avec toi. On te retrouvera dans quelques instants pour d'autres informations, savoir où en est donc Alexis Pinturo et les autres Français. Alors cette histoire, cette polémique du salut nazi de Dejan Lovren, vous avez pu vous exprimer, en tout cas nous donner une tendance, en colère, pas en colère comme Pierre Amiche, plutôt en colère Stéphane Brun, pourquoi ?
Ah, déjà, je suis un petit peu épaté par l'incompétence de l'Olympique Lyonnais ces derniers temps. Pierrot l'a rappelé, je vous rappelle quand même, ce club a fait venir Jérôme Boateng en n'étant pas au courant qu'il y avait une procédure judiciaire en cours contre le joueur pour violence conjugale. À l'heure où, avec les datas, tu sais combien de fois le mec fait caca par semaine, t'es pas au courant que le mec a une procédure judiciaire, donc je trouve ça un petit peu dommageable. Là, les mecs découvrent...
Pas forcément.
Pourquoi ?
Bah, c'est en Allemagne, c'est... Bon, enfin, bon, vas-y. Continue.
Ah, c'est vrai que l'Allemagne, c'est vrai.
Non, mais je suis pas d'accord sur les datas. Oui, t'as raison, mais sur le fait qu'il y ait une procédure judiciaire, je suis pas. C'est pas pour défendre l'OL. Je pense que tu peux passer à côté.
Ok, d'accord. Très bien.
Juste avant que tu continues, justement, pièce à conviction. Juninho hier, qui était le directeur sportif à l'époque de l'arrivée de Boateng, dans Rotten sans flamme, a réagi et a donné le fond de l'histoire quand ils ont fait arriver Jérôme Boateng, et ensuite je te laisse continuer.
Je suis honnête en vous dire, oui. C'est que nous tous, presque, on a découvert qu'il y avait un problème, qu'on a pensé que c'était pas autant sérieux, mais qu'il fallait qu'il voyage en Allemagne plusieurs fois. Mais donc oui. Là, si tu me dis, vous avez commis un erreur, oui, nous, on a commis un erreur tous ensemble. Mais... Moi, je crois que ça prouve un peu toutes les erreurs qu'on a commis, que ça commet encore à Lyon. Donc, peut-être qu'on a travaillé pas tous ensemble pour savoir. Et j'ai donné toute la liberté à Peter d'avancer les choses. Mais bien sûr que c'est un erreur de notre part parce qu'il y avait un problème que c'était sérieux et très important.
Peter Bosz, qui était l'entraîneur de l'époque, et qui a dit en conférence de presse, quand il a été interrogé comme Laurent Blanc sur ce sujet, non mais moi c'est un bon joueur de foot, on a recruté quelqu'un et je veux pas parler d'autre chose. Vas-y Steve.
Ensuite, pour revenir sur le cas Lovren, ça veut dire qu'un mec a fait soi-disant un salut nazi, qui a soi-disant chanté une chanson fasciste, donc il est un petit peu border sur le racisme. Moi j'ai joué en Croatie, à Split pendant 5 mois, donc je peux vous dire qu'ils sont border sur le racisme, hein. Je l'ai vu de mes propres yeux avec mes propres coéquipiers. Donc ça veut dire que ce garçon-là, tu l'emmènes dans une équipe où les joueurs ont vu cette polémique-là, et tu vas le faire jouer à côté de garçons comme Ryan Cherki, Oussama Aouar, Moussa Dembélé et Alexandre Lacazette. Ben moi ça pose problème à personne. Moi je veux dire je suis joueur, je suis arabe ou je suis noir. J'ai un mec qui arrive comme ça où j'ai vu ce qu'il a fait, je vous dis tout de suite c'est soit lui soit moi. Le mec je joue pas avec lui. J'ai sûrement dû côtoyer des mecs dans mon équipe qui avaient des pensées un petit peu extrême droite mais qui l'ont jamais montré. Donc moi je le savais pas. Ça me dérange pas et moi je suis blanc donc ça me touche moins que mes coéquipiers dans le basket. Moi je trouve qu'il y a c'est une énorme erreur aujourd'hui de faire venir un garçon comme ça comme Dejan Lovren et ça montre aussi l'amateurisme actuel de l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que déjà dans le recrutement, ils vont pas se creuser les ménages parce que Lacazette, Tolisso, c'était des gamins qui était là, Lovren c'est un mec qui était au club. Je trouve qu'il y a beaucoup de parence et ça explique les résultats sportifs de l'Olympique Lyonnais ces derniers temps. Toutes ces choses-là mis bout à bout, je trouve que c'est beaucoup d'incompétence pour un grand club du championnat de France.
Ok, vous avez du mal à vous positionner.
Non mais si j'entends, moi je suis d'accord avec le papier de donc je suis pas en colère mais je suis totalement d'accord avec le papier de Pierre. Évidemment qu'après tu prends pas, mais ce qui est ambigu, c'est que d'un côté il nous dit, je sais pas si le geste il l'a vraiment fait. Lui il fait amende honorable aujourd'hui, donc c'est.
En moi, disant que c'était pas un champ.
Ça me pose un problème quand même. Donc moi je suis pas là pour juger un mec qui, je sais pas en fait, parce que Pierre, il a des doutes. Voilà, si c'est avéré que effectivement ce gars est d'extrême droite et que il fait ce nazi, évidemment il faut pas le prendre. Évidemment, tu vas être en colère.
À part demander à un journaliste croate de nous traduire exactement les propos de cette chanson-là et de rapporter ce geste à un autre qui aurait été fait. On restera toujours dans la suspicion.
Mais d'accord,
moi,
c'est pour ça
d'avis.
Que ça me gêne.
Franchement, j'avais pas d'avis. Mais alors, Stephen, je suis 1000% d'accord avec toi. J'avais pas vu ce prisme-là, en fait. Et avec ce que tu avances comme argument, ouais, effectivement, là, je me dis que je. C'est de l'amateurisme et c'est quand même pas bien malin, quoi.
Pardon, c'est pardonnez-moi l'expression, mais c'est un bâton merdeux pour Laurent Blanc, ou ce qu'il dit, vous le comprenez. Lui, c'est l'entraîneur, il est là pour parler
de sport. Il a super bien communiqué, tu peux pas.
Mais quoi, je veux dire,
il peut pas dire autre chose. Bah, on lui a dit dire, tu prends cette posture-là, et il peut pas faire autre chose.
Non, il dit, on reste dans le sport.
La seule chose qu'il aurait pu faire, c'est dire non, je veux pas du joueur.
Oui, et ça, il te le dit pas en conférence de presse, il va pas te l'annoncer.
Donc, tu sais pas te positionner aussi, Christophe?
Non, mais j'ai été là aussi séduit par les arguments de Steve. Mais j'attends de voir. Mais effectivement, je pense que l'Olympique Lyonnais fait une erreur aujourd'hui. Tu dois faire gaffe, surtout quand on a un premier qui s'est révélé, avoir frappé sa femme. Donc fais un peu gaffe quand même quand tu recrutes les gens, quoi.
Parce que même s'il y a doute sur ce geste, ces paroles. Bah, quoi qu'il arrive, il y a suspicion.
Mais est-ce que c'est entendable?
Mais combien de joueurs
dit, je joue au sport, je fais du foot, me parler que de foot. Est-ce que ça, c'est entendable de la part d'un entraîneur?
À des médias dans une conférence de presse, oui, il ne peut pas dire autre chose. Mais après, en interne, non, il peut pas faire comme si chaque joueur aujourd'hui n'incarne pas une posture. Parce que ça peut foutre en l'air
investir. Enfin, moi, dans mon sport basket, aujourd'hui, les coachs et les managers, les général managers, quand ils recrutent un joueur, ils ne s'intéressent plus qu'aux qualités sportives du mec. Ils vont savoir, et même en NBA, quand ils vont drafter un gamin, ils posent 50 millions de questions sur l'entourage, son comportement, son attitude, sur sa façon de faire. Ils ne regardent pas que s'il est capable, si c'est un shooter à 3 points, si c'est un mec qui a une bonne détente. Aujourd'hui, il y a une étude globale du joueur. Comment on peut prendre en compte uniquement.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des recruteurs. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas juste les statistiques ou des images. On regarde effectivement l'environnement.
Oui, mais tu peux pas enlever la suspicion. Je suis désolé, Sarah. Oui, mais là, dans ce cas-là, attendons. Moi, je veux bien juger un mec.
Il n'y a pas de procès.
Si, parce qu'on l'accuse. Mais quand même,
non, vous dégagez. Bah, alors, va chercher un journaliste croate et qui.
Mais non, mais vous dites qu'il n'y a pas de procès. Exact. C'est un procès médiatique. Je suis désolé. Excuse-moi. À partir du moment où il y a procès médiatique, tu prends parti, forcément. Donc, c'est pour ça que Laurent Blanc, aujourd'hui.
Moi, je prends parti parce que j'ai vécu 6 mois à Split.
Oui, d'accord.
J'ai l'expérience à Split. J'ai eu des coéquipiers qui m'ont expliqué quand même certaines choses qui. Bon.
Et tu te dis que dans le doute.
Moi, j'enlève le doute. Mais moi,
Voilà. Ok, les copains, on reparlera de cette histoire évidemment. S'il y a d'autres informations, en tout cas toutes les dernières sont à retrouver sur rmcsport.fr. 10h46, on se retrouve dans quelques instants pour le zapping des GG. On parlera des soupçons de trafic de billets pour la Coupe du Monde de rugby. C'est une information du Parisien sortie ce matin. On vous donnera les éléments. Vous me direz si ça vous intéresse. Évidemment, tout de suite, Adèle Bodden, le ski alpin, la première manche du slalom géant avec Arnaud Souk. Arnaud, où en est-on ?
Suisse pour l'instant prophète en leur pays sur la Chouigny. Barclay, Marco Odermatt a soulevé l'immense foule qui s'est massée en bas de la Chouinis Barclay il y a quelques instants en prenant la première position provisoire de la première manche, 32 centièmes devant le Norvégien Henrik Christoffersen, et un autre Suisse, Loïc Meillard, pour l'instant est troisième, 49 centièmes de retard. Alexis Pinturo en quatrième position, il est dans ses standards hein, à 1 seconde 19 centièmes de Marco Odermatt, et ça se passe mal en revanche pour le troisième Suisse qui s'était lancé ce matin. À l'instant, la chute de Justin Murizier, lui qui est un habitué des bons résultats ici. Odermatt, Christoffersen, Meillard, Pinturo, pour l'instant c'est le top 4 de cette première manche du slalom géant d'Adèle Bodden.
A tout à l'heure Arnaud, et tout de suite on s'en fout pas dans les grandes gueules du sport sur RMC. A tout de suite
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
Jean-Christophe Drouet.
10h49 de retour dans les grandes gueules du sport. À partir de 11h, nous allons parler des stades de dingo en ce moment en NBA. Team grotesque, team dantesque. Ce sera le bras de fer des GG dans une dizaine de minutes. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des GG. Le retour.
D'autres informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. La première à vous donner, c'est Sébastien Chabal soupçonné de trafic de billets pour la Coupe du Monde de rugby 2023. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je m'en fous pas.
Sarah Pitkowski.
Je m'en fous pas.
Stéphane.
Bon, moi je m'en fous.
Ok.
Je réponds, je m'en fous, vous allez me dire, t'es un lâche, donc je m'en fous pas.
Bah oui.
Voilà. Selon une information du Parisien, des centaines de billets pour la prochaine Coupe du Monde de rugby organisée en France auraient été vendus en dépit des règles parmi les personnes soupçonnées, l'ancienne légende Sébastien Chabal. Alors je vous explique tout ça. 600 billets qui se sont auraient donc été discrètement détournés du système de vente traditionnel pour être écoulés de manière irrégulière au profit de proches de Claude Haché. Vous le savez, Claude Haché, c'est l'ancien directeur général du comité d'organisation de ce mondial, licencié en octobre dernier pour pratique managériale alarmante. Toujours selon le quotidien Le Parisien, les perquisitions menées au siège du comité d'organisation ont révélé que deux anciens rugbyman auraient fait l'acquisition d'une centaine de billets, parmi eux, je le disais, Sébastien Chabal, ambassadeur de France 2023, qui aurait donc fait l'acquisition de ces billets pour les revendre à d'autres personnes.
Il y a effectivement ces deux anciens joueurs, mais le cas le plus grave, c'est celui d'un salarié à mi-temps de la Fédération française, qui s'appelle Henri Mioche, qui lui aurait acheté 600 billets pour la bagatelle de 100 000 euros. Et évidemment, ces billets, c'est pas pour les distribuer gratuitement.
Il les a achetés pour ses enfants, Mioche.
Il les a ni pour les donner à ses enfants. C'est pour en faire évidemment du business, puisqu'on a. Un billet, par exemple, c'est autour de 300 euros. Et ben, tu arrives à le revendre en l'entourant de
dans un package.
Ouais, dans un package à 1500 euros. Donc, tu vois, c'est une grosse, un gros business. Et effectivement, bon, là.
Non mais attendons avant de juger parce que.
Mais si c'est le cas, si le cas est avéré, la coupe commence vraiment à être pleine. Et là, franchement, l'image du rugby français à quelques mois de la Coupe du Monde, Denis.
C'est pas l'image du rugby français. C'est l'image de l'organisation du GIP qui vacille.
Il y a toujours le nom de Haché qui revient dans les histoires depuis un an.
Je vous coupe. Information, priorité au direct. On va retrouver au siège, pas au siège de la Fédération française de football, mais devant cet hôtel parisien. Car ce matin, vous le savez, on en a parlé à 10h, il y a l'Assemblée Générale. Et nous avons des informations à vous donner sur la prolongation de Didier Deschamps. Nicolas Pelletier, c'est à toi.
Oui, Didier Deschamps qui prolonge jusqu'en 2026 le sélectionneur de l'équipe de France qui est apparu à l'est de cette Assemblée Générale de la Fédération Française de Football. On savait qu'il allait dire un petit mot depuis quelques minutes et donc il est monté sur l'estrade aux côtés de Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, et il a annoncé: je suis très heureux de vous annoncer un moment fort que de ma carrière, c'est que je prolonge jusqu'en 2026 à la tête de l'équipe de France. Voilà, donc c'est l'information importante de cette journée. mai à l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Football.
Information que l'on vous donne. Merci beaucoup Nicolas Pelletier. C'est tout chaud, donc forcément nous allons changer notre conducteur et nous en parlons à partir de 11h. Didier Deschamps.
Parce que Zidane doit attendre. Alors là ça prend du sens le débat.
En fait JC
t'es en avance.
Exactement.
Alors oui, soit j'ai un temps d'avance, je suis un génie, soit c'est possible, c'est j'ai beaucoup de temps de retard et donc je galère pour récupérer ce retard.
Et le problème c'est que Denis a été visionnaire parce qu'il a dit que Deschamps allait prolonger 2 ans oui. Et que Zidane finalement c'était un an.
Donc le débat était juste JC.
Je vous rappelle l'information, Didier Deschamps va donc prolonger jusqu'en 2026 avec les Bleus. On en parle dans le bras de fer dans quelques instants à partir de 11h sur RMC. Nous allons bouleverser évidemment notre programme. On continue sur cette histoire du rugby et ce trafic de billets. Denis Charvet.
Écoute, moi je suis bien embêté parce que d'abord on ne peut pas juger avant de savoir tous les tenants et les aboutissants. Henri Mion, je le connais très bien, j'ai joué contre lui. Enfin, je veux dire, c'est des camarades de jeu, c'est des copains. Il a une société, il fait des opérations déjà, d'hospitalité. Donc voilà, c'est pas illogique non plus. Donc est-ce que ça, on est en train de parler de droit.
Il y a un vrai business.
Oui, mais c'est
des billets.
Alors on parle de droit. Après, Denis, je sais pas moi le droit. Je suis pas là pour juger aujourd'hui.
Denis, je comprends que ta situation, elle est super délicate. Je vais prendre un cas qui est la même chose, mais qui est marronnier avec Roland Garros. C'est-à-dire que quand tu vends des places, soit tu es une agence officielle reconnue, tu peux donc acheter une quantité de places réglementées et après tu les vends ou tu les vends.
C'est ce qui se passe avec le JIP. Le JIP de 2023, il y a des agences qui ont.
Mais en fait, là, ce qui est remis en cause, c'est que c'est pas le fait qu'ils vont vendre la place 5 fois le prix, parce que peut-être qu'on ne sait pas et qu'elle n'est pas encore vendue la place.
Si la pignon sur rue est une agence.
Pourquoi
agréée.
On donne la priorité à un être humain, à une personne et non pas à une agence, d'acheter un certain nombre de places qui est hors cadre des agences officielles? Elle est là la faute.
Pardonnez-moi, mais cette Coupe du Monde, Claude Haché, je le disais, licencié, Bernard Laporte, ça va pas fort, vous le savez, le président de la Fédération Française de Rugby, et derrière, Sébastien Chabal, ambassadeur de France 2023, si c'est avéré évidemment. Ce trafic de billets, non mais c'est une catastrophe.
En termes d'image.
Pour cette Coupe du Monde.
Oui, en termes d'image, oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce que ça.
C'est pas forcément
ce
trafic, après, c'est.
Non, c'est
faire
un
des opérations.
C'est pas un trafic, c'est un passe-droit.
C'est du copinage.
Qui, exactement, en fait, ça renvoie une image d'une Coupe du Monde entre copains. On s'est fait une Coupe du Monde et on se l'organise entre copains.
Si tu me demandes si c'est un trafic d'organes, je te dis évidemment non, on n'est pas
oui,
au même point.
Je comprends,
mais ce que je veux dire, c'est si on donne à Sébastien Chabal, bon, t'es l'ambassadeur, tiens, 100 places, et que toi, c'est 100 places. D'ailleurs, dans le règlement, il est marqué que quand tu as une place, tu n'as pas le droit de la revendre.
Sa rémunération, je ne sais pas comment il est payé pour être ambassadeur.
On ne fait pas de la spéculation sur la rémunération. On ne fait pas de la spéculation. Ah ouais, alors le mec qui dit, attendez, je vais la vendre 3000 euros la place, et puis je vais me rembourser par rapport au truc. Si t'es ambassadeur de 2023, et dans ton règlement, il y a marqué que tu n'as pas le droit de vendre une place. Oui, non mais ce n'est pas.
Non, je veux dire, la fonction d'ambassadeur,
tu fais de la spéculation,
c'est bénévolat
dans le contrat. Non mais rien, on les a pas les contrats, on sait pas.
Ah mais c'est une information du Parisien, je l'ai vu ce matin, comme quoi dans le contrat, il y a marqué que quand tu es dans l'organisation, tu n'as pas le droit de vendre des places.
Écoute, après, ouais. Après, on a tous demandé des places à des amis.
Non, mais demander des places, ça n'a rien à voir.
Non, mais tu peux avoir 10 places, avoir des privilèges.
D'avoir des
privilèges, mais là, tu n'achètes pas 600 places pour avoir une offre de privilèges. C'est pour faire un business.
Si tu fais un business, tu es l'ambassadeur, tu es l'image de ta Coupe du Monde, et derrière, tu en profites pour faire du business avec les places de la Coupe du Monde que tu as eues parce que tu étais ambassadeur, c'est un vrai problème.
Surtout quand tu sais comment c'est compliqué.
Tu as quand même revendu les places qui s'arrêtent à filer pour aller en
pour les passionnés de rugby que nous sommes pour essayer d'obtenir des places pour la Coupe du Monde et que tu vois que tous les copains eux se font refiler des places et les revendent à des prix astronomiques. Moi j'ai essayé d'avoir des places pour mes copains, pour ma famille. Bah là, rien pour l'instant, j'ai rien du tout. Hein.
Oui, mais donc, c'est différent,
Monsieur Mioche. Là.
C'est différent
pour les gens qui veulent essayer d'avoir des billets pour la Coupe du Monde.
Oui, j'entends ce que tu dis, mais
c'est choquant.
Eh oui, parce que c'est autant de places qui ne sont pas accessibles aux personnes lambda qui vont acheter des places.
Mais si tu connais très bien quelqu'un et tu lui dis est-ce que tu aurais 2 places pour le France-Nouvelle-Zélande en ouverture.
Bah moi je vais demander à Denis, mais je suis pas sûr que Denis.
Prenez le show sérieusement. Si tu demandes ça à un copain, ça n'a rien à voir qu'avoir 100 places et les écouler de ton côté.
Mais évidemment.
Strictement rien à voir. Ok les copains, on reparlera de ce sujet demain. Christophe sera là, vous ne serez pas là, mais on aura d'autres grandes gueules, notamment Marc Madiot, Olivier Giraud et Pascal Duprat. On revient dans quelques instants. L'info l'information de ces dernières minutes. C'est tout chaud. Didier Deschamps, on vient de l'apprendre, prolonge jusqu'en 2026. Team content, team Brazil, pas content. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.